France Inter.
Médecin légiste, anthropologue, archéologue, auteur, maître de conférences, directeur du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie à l'Université Paris-Saclay, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Directeur de la collection Terre humaine chez Plon et rédacteur en chef de la revue numérique Ethics, Medicine and Public Health, Philippe Charlier est aussi familier avec la sphère physique et les corps qui la peuplent qu'avec le monde de l'invisible et ses manifestations. Ancien directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly, membre cofondateur de la Fondation Anthropologie, Archéologie, Biologie de l'Institut de France et praticien hospitalier à l'APHP, il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au surnaturel, aux zombies, aux vaudous, aux momies, aux vampires et aux esprits. Il vient de publier chez Azan l'ouvrage richement illustré Fantômes Yokai, dédié aux apparitions et démons japonais, accompagné d'estampes de grands maîtres comme Hokusai, Hiroshige ou Kuniyoshi. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Alors attention, je pense aux parents qui écoutent avec leurs enfants, il y aura quelques histoires de fantômes qui risquent d'être effrayantes ce soir. Philippe Charlier, bonsoir.
Bonsoir Eva.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
À la mort et aux patients du passé, j'ai passé une grande partie de la journée dans les catacombes de Paris à travailler sur des ossements qui étaient peut-être vieux de 1000 ans ou de 400 ans ou 200, on ne sait pas encore la datation exacte. Donc j'ai vu aujourd'hui des syphilitiques, j'ai vu des trépanés, j'ai vu des cancéreux, j'ai vu des traumatisés, j'ai vu des infectés de mille et une choses, des enfants, des femmes, des hommes. Voilà, j'ai vu plein de patients comme si j'avais été à l'hôpital dans une consultation de santé publique. C'est la même, mais sur des morts un petit peu plus anciens.
Alors justement, vous avez été médecin-chef à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre et également chef de service à l'hôpital de la ville de 2016 à 2018. Est-il vrai que lors de votre dernière journée de consultation en prison, veille de votre nouvelle prise de poste au Quai Branly, un patient a tenté de vous assassiner ?
Oui, un patient a tenté de faire un geste, on va dire, avec une arme blanche qu'il avait fabriquée de façon artisanale. Et je pense qu'il ne voulait pas rester dans la prison, dans la maison d'arrêt. Et le meilleur moyen d'être transféré immédiatement, c'est de faire une tentative d'assassinat ou un assassinat strictement parlé. Et donc, oui, a priori, c'était pour moi. Et je remercie beaucoup ce qu'on appelle la gradée, c'est-à-dire la supérieure des gardiens, qui a vu qu'il avait une démarche un petit peu bizarre. Il ne pliait pas la jambe du côté droit et c'est là qu'il avait en fait son arme bloquée contre le genou. Elle a fait une fouille juste avant qu'il rentre dans le bureau et je la remercie beaucoup parce que c'est grâce à elle que je peux rentrer chez moi tous les soirs.
Philippe Charlier, à force de voir tant de cadavres et environ 2000 autopsies, est-ce que vous avez peur de la mort ou moins peur qu'avant ou plus peur qu'avant ?
Je ne sais pas si j'ai peur de la mort. Je suis curieux, non pas tant de la mort, parce qu'honnêtement, je n'ai pas envie qu'elle me touche tout de suite, vraiment. Encore mille et une choses à vivre et à partager. Mais je suis curieux vraiment de tous les rituels qui accompagnent la mort. C'est ça, moi, qui vraiment me fascine. C'est cette façon qu'ont les humains d'essayer d'organiser le chaos, et ce chaos étant la maladie, étant l'impondérable, ce qui arrive et on ne sait pas que ça va arriver, et puis, principalement, la mort. Et j'adore cette façon de construire, par exemple, une sorte de géographie de l'autre monde, un peu comme ces dessins qui représentent le paradis de Dante. Également, j'aime beaucoup les livres des morts qui voient comment se passe tout ce qui est juste après le dernier souffle et tous ces rituels qui entourent la gestion du cadavre dans les populations anciennes et dans les populations actuelles, mais extra-européennes et même européennes. Voilà, comment on fait pour gérer ce scandale qu'est la mort, non pas cette interruption de la vie, mais cette transformation de la vie qu'on appelle la mort.
Vous vous êtes aussi intéressé aux malformations, aux maladies. Rien du corps humain ne vous dégoûte ?
Ben là, on est en train de parler, je suis en train de vous voir en transparence, c'est-à-dire que je vois la position de votre cœur, je vois vos poumons, je vois vos intestins, parce qu'ils sont en train de bouger un tout petit peu, parce que vous avez bu un thé ou un verre d'eau.
Vous êtes un voyeur, Philippe Charlier. Écoutez, je ne vous ai pas donné mon consentement pour regarder mes poumons.
Non, mais un voyant plutôt, puisque c'est notre fonction de médecin, et tout médecin, honnêtement, à ce regard-là, qu'on soit radiologue, qu'on soit médecin clinicien, généraliste ou autre, on a tous cette capacité à voir le corps un peu en transparence. Et par là même, non, pas grand-chose ne nous dégoûte. Moi, il y a une chose qui me dégoûte, c'est l'odeur du chèvre chaud, vous voyez. Donc, mis à part ça, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me pose problème.
Sans les pieds un peu et le vomi un peu, le chèvre chaud.
Oui, les pieds, le vomi, une odeur de macération un peu. Enfin, c'est honnêtement, c'est la seule odeur que j'ai un peu du mal à supporter. Le reste, donnez-moi une odeur de vomi, une odeur de pied tout court, donnez-moi une odeur de... Ah si, quand j'avais goûté du requin pourri en Islande, là, je dois avouer que c'était moyennement agréable. À la fois l'odeur, il y a à peu près l'équivalent qui existe aussi en Polynésie, qu'on appelle le fafaru. Le fafaru, c'est du poisson macéré dans l'eau de mer, qu'on mange plusieurs jours, voire semaines plus tard. Et ça, on en avait mangé en Polynésie française, avec Van Hoang-Opperman, qui est un ami. Et c'était un mets d'honneur, on va dire, et particulièrement délicieux. Je dis pas que je l'ai apprécié, mais je l'ai goûté.
Eh bien, écoutez, pour le moment, moi, je reste aux odeurs de pieds.
Pendant l'été, où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées, où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là qu'on s'est aimé pour la première fois.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Philippe Charlier, nous rendons hommage à la grande faucheuse dans cette émission. Alors commençons par parler de vos rapports, vos débuts avec elle. Votre premier contact avec un cadavre se produit lorsque vous avez 6 ans. Il s'agit d'une taupe.
Oui, ça va, c'est assez homéopathique comme contact. Je me suis surtout rendu compte que les taupes étaient toutes petites. C'est minuscule une taupe. Je ne sais pas, Eva Bester, si vous avez déjà vu une taupe.
Est-ce que ça a des lunettes?
Ça n'a pas de lunettes.
Ah, c'est dans les dessins animés.
Ça a à peine des yeux. Non, c'est tout petit, c'est minuscule. Et oui, je faisais des pseudo-fouilles archéologiques dans le jardin familial. Et c'est là que j'ai trouvé des petits essences de poterie récents et une taupe. C'était mon premier cadavre. Honnêtement, c'était pas le plus passionnant.
Et à 10 ans, un crâne.
Alors là, pour le coup, beaucoup, c'était à l'époque l'IFAN, donc l'Institut d'archéologie préventive, qui est devenu l'INRAP un petit peu plus tard, nécropole à Chessy-sur-Marne, en l'occurrence, mérovingienne. Et là, c'était les premiers squelettes humains que je pouvais approcher. Et oui, c'était un crâne, que j'ai d'ailleurs en partie démoli, pardon, a posteriori. Et ça, c'était la première confrontation. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les squelettes et les corps humains morts pouvaient parler. Et pouvait même être particulièrement bavard. Et je pense que c'est un des moments qui a été clé pour ma vocation.
Oui, puisque vous êtes en fait comme un détective privé sur défunt.
Détective privé, je ne sais pas, mais je fais parler les morts en tout cas. C'est mon métier.
Avec le scalpel.
Avec le scalpel, avec le microscope, et puis avec toutes les données, tout ce qu'ils peuvent raconter à travers le corps, à travers la peau, à travers les cheveux, à travers même leurs excréments dans les latrines. On fait feu de tout bois dans ma discipline qui est la paléopathologie, une des disciplines de la santé publique. Et on arrive vraiment au fur et à mesure à reconstituer l'état de santé des populations du passé.
Parce que ça vous est même déjà arrivé de prouver qu'un cadavre n'était pas celui qu'on pensait qu'il était.
Ah oui, c'est pas parce... Et ça, c'est vrai autant en médecine légale. C'est pas parce qu'il y a une gourmette marquée Eva Bester que c'est le cadavre de Eva Bester. Et c'est la même chose pour les squelettes anciens. C'est pas parce que quelqu'un est dans le sarcophage dit de Foulque Néra III, comte d'Anjou, que eh bien, c'est la bonne personne. Et assez souvent, par exemple, les reliques dites de Jeanne d'Arc, on a mis en évidence le fait que ce n'était pas Jeanne d'Arc dans ce bocal conservé à Chinon, mais que c'était des fragments de momies humaines et de chats d'origine égyptienne du 7e, 5e siècle avant Jésus-Christ.
Philippe Charlier, quand on vous demandait petit ce que vous vouliez faire, vous répondiez déjà Jean-Christophe Ruffin.
Eh bien, je le réponds toujours.
C'est vrai ?
Je le réponds toujours.
Et vous lui avez succédé chez Plon, où vous êtes devenu directeur de la collection Terre humaine en 2021. Il a même préfacé votre livre, Autopsie de l'art premier.
Oui, ben pour moi, c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle à la fois sur le plan humain, sur le plan professionnel. Et c'est pour moi l'image parfaite du médecin humaniste. Voilà, et j'aime profondément cet homme. Et, et j'essaye de Alors, je ne fais pas aussi bien que lui, mais j'essaye de bénéficier de son enseignement et de son expérience.
Vous avez rédigé 3 thèses.
Oui.
C'est admirable. Une en médecine légale, aspect évolutif des malformations humaines qui portent sur l'Antiquité gréco-romaine et que vous avez dédié au président de la SNCF, puisque rédigé beaucoup dans les trains.
Oui, Paris-Lille, exclusivement dans Paris-Lille.
Oui. Ah oui, très élégant.
C'était Monsieur Pépi à l'époque, qui du coup m'a remercié et m'a invité à déjeuner et à dîner plutôt dans l'Orient Express.
Et vous êtes Hercule Poirot, en fait. Vraiment?
Pendant une heure et demie, j'étais dans les habits d'Hercule Poirot, et le repas était fort bon d'ailleurs. Merci Monsieur Pépi.
Écoutez, on vous salue Monsieur Pépi. 2 autres thèses, une thèse d'archéoanthropologie, une thèse d'éthique biomédicale sur le statut du corps mort, devenu le livre « Ouvrez quelques cadavres, une anthropologie médicale du corps mort ». Mais vous dites que vous n'êtes pas du tout morbide, puisque ce n'est pas la mort qui est au cœur de votre travail, mais la vie, puisque le corps.
Oui, c'est... Comment vous dire la mort, pour moi, ne s'oppose pas à la vie. La mort, pour moi, s'oppose à la naissance. Mais la vie, elle est là tout le temps, en permanence. Et elle se modifie, elle change de forme et d'aspect, tout simplement.
Alors, vous n'êtes, par exemple, j'imagine que vous avez des gens que vous avez aimés qui sont morts, comme à peu près tous les gens qui nous écoutent.
Hélas, oui.
Et quel est votre avis sur ce sujet? Vous pensez qu'ils ont disparu totalement ou que l'essence est toujours quelque part sous une autre forme?
Dans ma spiritualité, ils n'ont pas intégralement disparu. Ils ne sont pas... tant que le souvenir persiste, tant que je me souviens encore de leur voix, de leur odeur, de la sensation de leur peau, pour moi, ils ne sont pas entièrement morts. Voilà. Pour moi, la vraie mort, c'est l'oubli. Voilà. Et quand chacun de ces différents aspects d'eux n'a pas entièrement disparu, eh bien, ils ne sont pas entièrement morts. Pour moi, rêver d'eux, penser à eux, c'est entretenir, non pas une sorte de survie, mais ils n'ont pas entièrement disparu. Ils sont plus difficilement visibles, voilà, mais ils ne sont pas totalement morts.
Avant la fin du XVIIIe siècle, en Occident, la mort n'était jamais cachée, mais visible en permanence. Les enfants vivaient au milieu des morts. Aujourd'hui, la mort semble scandaleuse.
Oui, elle est scandaleuse, c'est le bon mot. Elle est dissimulée maintenant, parce qu'elle s'associe à quelque chose qui est une notion de souillure, une notion de saleté, une notion de dangerosité, peut-être à cause de la contagion des agents infectieux. Également, l'altération du corps mort, qu'on n'aime plus du tout, alors qu'avant, eh bien, le corps, oui, pouvait être embaumé pour les nantis, mais là, c'était parce que le corps était conservé et présenté parfois 10, 20, 30 jours après le décès. Mais maintenant, il y a les soins de conservation corporelle qui sont quasiment systématiques. Et honnêtement, je n'y suis pas opposé. Cette dernière image est extrêmement importante pour les survivants. Mais c'est vrai que la mort, elle est... Il ne faut pas la montrer. Il faut très vite la dissimuler, la mettre de côté. Et il faut vraiment réapprendre. Au moment où on est en train de parler d'euthanasie, de réhabiliter pour certains cette idée de choisir exactement le moment de sa mort, au moment où il y a un vrai débat sociétal sur quand la mort doit survenir et dans quelles conditions exactement, je pense que c'est le bon moment aussi pour réfléchir à la place de la mort en général, dans la société, et ne plus fermer les yeux face à la mort, se réapproprier la réalité de la mort pour la communauté des vivants. C'est une démarche, à mon avis, qui est sociologique, qui est anthropologique, et je pense que la médecine a toute sa place dans ce, non pas ce débat de société, mais dans cette action au service de la société.
Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, dès maintenant, à échelle individuelle, pour se apprivoiser un petit peu la mort? Parce qu'on ne peut pas passer d'une société totalement aseptisée à, d'un coup, une fête avec des cadavres autour de nous. Comment est-ce qu'on peut faire?
Non, on ne va pas faire une fête. Le but n'est pas de créer une danse macabre systématique pour tout le monde le vendredi 13 à chaque fois. Non, c'est pas
parfois,
ça.
Voir juste ses parents à la morgue, ça peut être
voir
traumatisant
ses parents,
aussi.
Voir... Ben oui, mais il faut offrir la possibilité aux enfants de le faire. Ne pas les forcer, par exemple, je pense. Et puis, surtout, au-delà de ça, parce que ça, c'est pas le plus important, je pense, c'est surtout parler de la mort. On n'en parle pas. C'est un mot, même dans les médias, on dit il est mort d'une longue maladie.
Il est parti.
On n'est pas le mot cancer. Il a disparu. Et le mot mort lui-même est dissimulé et ça n'est pas normal. Donc je pense qu'il faut juste en parler. C'est une chose qui est normale. C'est un scandale, certes, mais c'est un scandale qui est nécessaire, qui est obligatoire, qui est systématique, et c'est un scandale qu'il faut assumer.
Vous avez coécrit avec David Alliot « Autopsie des cœurs célèbres ». Vous avez été au contact des restes présumés de Jeanne d'Arc, conservés à Tours, de ceux de Diane de Poitiers, du cœur embaumé de Richard Cœur de Lion, du crâne de Descartes, du cadavre d'Adolf Hitler que vous avez authentifié grâce à ses dents. Et en ce moment, Philippe Charlier, vous travaillez sur le cœur de Voltaire et sur les restes du peintre Raphaël. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les morts aimeraient que vous laissiez leur dépouille tranquille?
Alors, sachez que ça, je suis content que vous me posiez la question, parce que c'est une question que je me suis posée pendant 3 ans quand je rédigeais ma thèse d'éthique biomédicale, qui était sur le statut des corps humains. Avant, j'aurais pu devenir une sorte de chien fou et me jeter un peu sur tous les cadavres, avec cette idée très bergsonienne du bien commun. Se dire que pour répondre à cette nécessité scientifique de progrès et d'amélioration des connaissances, eh bien on pouvait passer outre la volonté des défunts et exhumer qui on voulait pour avoir plus de savoir. Eh bien, depuis ma thèse d'éthique, je peux vous dire que j'ai fortement réfréné mes ardeurs, ou mes tentatives d'ardeur, et je suis beaucoup plus mesuré. Et je considère que le respect de l'humain et du patient persiste évidemment après la mort, y compris sur une très très longue période, et qu'on ne peut pas tout s'autoriser avec les défunts. Et donc, nous ne sommes pas allés exhumer Raphaël en ouvrant sa sépulture au Panthéon de Rome, nous avons respecté celle-ci, mais nous avons été opportuns, mais pas opportunistes, en profitant de petits fragments du peintre qui avaient été récupérés au moment de l'ouverture du tombeau en 1833 et conservés par 3 peintres ou sculpteurs qui les ont ensuite ramenés chez eux. Pareil avec Voltaire. Voltaire en a profité, en lien direct avec la Bibliothèque nationale de France, à l'occasion d'une vérification de l'état du reliquaire du cœur qui est dans le socle de la statue de Houdon, sur le site Richelieu, et bien on en a profité pour continuer à travailler dessus à cette occasion-là. Mais on n'a pas ouvert le reliquaire, on n'a pas désacraliser celui-ci, on a profité d'un petit pertuis, une petite ouverture. Donc voilà, on est à l'affût, on guette, c'est vrai, mais on ne va pas ouvrir un tombeau par plaisir ou par curiosité scientifique. Je verrai ça maintenant comme une véritable profanation de sépulture et du coup un manque de respect vis-à-vis du mort, le mort étant pour moi un patient.
Vous avez pratiqué des autopsies pendant 10 ans, ensuite vous vous êtes occupé de patients vivants, notamment des prisonniers et des migrants pendant 3 ans, et vous dites maintenant vous occupez de patients du lointain, les esprits ?
Les patients du lointain, oui, ce peuvent être autant les patients de mondes extra-occidentaux, du lointain, on va dire, géographique, ce peut être le lointain chronologique, et puis, oui, de, un lointain qui est cet intermonde, si on peut dire. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé, et vous voyez que je mélange les disciplines des sciences fondamentales et des sciences humaines en permanence, parce que ce clivage artificiel entre les deux me semble totalement abscon. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est... Ce mélange des genres me permet de mieux comprendre la complexité de, à la fois des rituels autour de la mort, des rituels autour de la maladie et de la réalité même biologique des maladies. Et donc, ces intermondes, les vampires, les morts-vivants en général, les zombies d'Haïti ou les fantômes, tantôt occidentaux, tantôt japonais, les yurei en l'occurrence, eh bien, c'est aussi une façon de mieux comprendre, interpréter de mauvaises morts. Des morts violentes, des assassinats, des suicides, des homicides, quels qu'ils soient, des morts d'enfants, malheureusement, des accidents aussi. Comment, dans ces différents contextes chronoculturel, eh bien, on essaie soit de trouver une issue, une explication ou un moyen de réguler ces mauvais morts. C'est ça qui m'intéresse.
Ça, on va y revenir en détail, puisque vous publiez un très beau livre justement sur les esprits japonais. Mais vous dites, Philippe Charlier, ne pas vous poser la question de savoir si les fantômes existent, mais pourquoi les gens y croient. Et j'ai quand même envie de vous poser la question, vous qui avez été initié au rite vaudou au Bénin, qui écrivez sur le surnaturel, sur les vampires, les zombies, les fantômes. Est-ce que, je sais que vous êtes très cartésien, mais est-ce que vous croyez tout de même un tout petit peu aux esprits, aux fantômes, aux apparitions?
Alors, je vais vous répondre en cartésien. Un cartésien connaît les limites de son cerveau et pour moi les limites de mon QI. Donc il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, tout simplement. Des choses qui sont à la limite de la compréhension scientifique. Alors, soit on est cartésien, on dit ben, je comprends pas, je laisse à d'autres qui sont mieux pourvus que moi par leur cervelle ou leur cortex la liberté de comprendre et d'interpréter. Et puis il y en a d'autres qui mettent sur cette étiquette inconnue le mot religion ou superstition ou magie ou que sais-je encore. C'est ça être cartésien, c'est connaître ses limites. Oui, c'est vrai qu'au Bénin, en Haïti, il m'est arrivé de ne pas comprendre quelque chose qui se passait devant moi. Ne pas comprendre, faire des photos d'un individu et ensuite, au moment du développement des photos, ne pas voir l'individu sur la photo, alors qu'il était en face de moi et que ça n'était pas une hallucination. Ben voilà, je comprends pas. Maintenant, est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est un problème technique? Bah, à chacun son interprétation. Ne plus avoir de batterie sur son téléphone portable, le poser sur un hôtel vaudou, vraiment en rase pampa du Bénin, et à ce moment-là, vous avez en haut à droite le petit logo de charge qui s'affiche dessus. Je peux pas comprendre, mais c'est pourtant ce que j'ai observé et les personnes qui étaient avec moi aussi. Ben voilà, c'est soyons cartésiens, acceptons simplement les limites de mon cerveau, et le mien, honnêtement, est limité.
Tahiti, no plans, border.
Maxwell Farrington et le super homard, le titre Hexagone.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier pour évoquer l'ouvrage Fantôme Yokai paru chez Azan et dont le sous-titre est Histoire d'amour et de mort dans le Japon traditionnel. Philippe Charlier, quelle est la différence entre un yokai et un yurei ?
Un yokai est une sorte d'entité surnaturelle, pas forcément monstrueuse, mais surnaturelle, qui peut être tantôt bénéfique, tantôt maléfique, et qui vit à un endroit particulier du Japon traditionnel. Ça peut être une source, ça peut être un rocher mémorable, ça peut être un golfe dans la mer, ou ce genre de choses. Parmi ces entités surnaturelles, il y en a une partie qu'on appelle les yurei, qui sont les fantômes, qui sont à 98-99% des entités féminines, et 1 ou 2% donc masculins.
Car souvent maltraités de leur vivant.
Ah oui, oui, très très maltraités. Et les fantômes, les yurei, sont généralement des femmes qui ont été poussées au suicide, qui sont mortes de faim, ou mortes de tristesse, ou de peur, ou des individus, oui, qui ont été assassinés, parfois des enfants, parfois des corps restés sans sépulture sur une scène de bataille. Et donc, ces yurei sont des entités qui vont errer pendant des siècles, parfois, en demandant à bénéficier d'une sorte de purification par les prières, par des scènes de théâtre également, par des sacrifices, par des sacrifices, tout simplement de l'encens. On ne va pas tuer quelqu'un, bien entendu.
Oui.
Donc des rituels,
chou-fleur.
Si vous préférez.
Oui.
Des choux-fleurs.
Oui, on peut assassiner un choux-fleur.
Oui, oui, oui. Je n'étais pas préparé pour le choux-fleur, mais c'est vrai. Voilà, donc il y a des gestes que peut faire la communauté des vivants au bénéfice de ces yurei pour tout simplement qu'ils aillent vers l'annihilation complète, la neutralisation complète, c'est-à-dire le nirvana.
Dans votre livre, on apprend une multitude de choses. On apprend déjà que les yurega, les peintures de fantômes japonais, sont assez récentes, puisque les histoires, elles, perdurent depuis des siècles. Mais les représentations sont dues au peintre Okyo Maruyama, né en 1733, et confronté au fantôme de la femme de sa vie qu'il représente après l'avoir vue.
C'est une histoire que j'adore. Cet homme est en train de peindre, il a déjà beaucoup de talent, il est déjà reconnu. Et puis, à un certain moment... Pendant qu'il est en train de peindre, sa femme lui apparaît. On ne sait pas très bien si c'est sa femme sort d'un petit détail d'une peinture qu'il avait réalisée, ou si sa femme sort de la toile directement, ou qu'elle est simplement dans l'atelier, mais il va la représenter. Il va représenter tout de suite ce fantôme qui est face à lui, qui est une yurei, et il est passionnément amoureux de sa femme. Et c'est peut-être ça qui fait que sa femme est devenue fantôme, c'est qu'il y était tellement attaché qu'il ne lui a pas permis de rejoindre le cycle des réincarnations. Il n'a pas fait son deuil, entre guillemets, et il persistait à dire son nom, à l'aimer, à rêver d'elle, à caresser encore des messes de cheveux d'elle, très très attaché aux cheveux, et du coup, eh bien, il n'a pas laissé se défaire le fil spirituel qui le maintenait à son épouse décédée. Et donc, il l'a représentée. Et c'est la première représentation dans une peinture d'une yurei, avec cette absence de pieds et de jambes, parce que c'est un être qui est flottant, avec ses cheveux qui sont défaits, avec cette bouche très très rouge, dont on ne sait pas si elle est rouge parce qu'elle a été maquillée ou parce que le fantôme a croqué un être de chair et que c'est du sang qu'il y a sur ses lèvres. Il y a ce regard qui est perçant, très noir, très, très profond. Ce sont les pupilles de la mort qu'on voit. Et puis ce teint blanchâtre et ce vêtement lui-même très, très blanc. C'est pas un vêtement d'ailleurs, c'est le suer, c'est-à-dire la toile de tissu funèbre, parfois un kimono, dans lequel le défunt a été mis en terre.
Il y a un rituel que vous rapportez et je trouve qu'on devrait le réhabiliter. J'ai trouvé ça merveilleux à imaginer. À la période Edo, il y avait des veillées aux 100 bougies chez les lettrés.
Alors c'est un rituel que je ferai très très certainement un de ces quatre. Michel de Grèce viendra, vous viendrez si vous voulez. Donc généralement ce sont des samouraïs ou des lettrés qui se réunissaient principalement à la période de Obon. Donc c'est la fin du mois d'août, la période...
C'est le mois des morts.
Le mois des morts exactement, le mois des orages aussi où il fait très très chaud, très très lourd dans l'air du Japon. Et c'est le moment où les morts sortent du tombeau et où on les appelle dans les temples pour échanger un petit peu avec eux et leur offrir offrir pas mal de victuailles et de cadeaux. On entretient le souvenir. Et donc, à cette période-là, propice donc à la sortie des morts, eh bien, on se réunit à la tombée du jour, à peu près maintenant, voilà. Le soleil se couche, on allume 100 bougies et on dresse un yuraiga, c'est-à-dire cette peinture de yurei qui est à taille humaine. Donc, c'est une sorte de kakemono qui fait 2,40 m de hauteur et au milieu, il y a une peinture qui fait 1,60 m de hauteur qui est le yurei. Et on commence à raconter des histoires de fantômes. Et à chaque fois qu'on finit de raconter une histoire de fantômes, par exemple les contes chinois de Pu Songli, ou des histoires de Lafcadio Hearn, par exemple, eh bien, à chaque fois qu'on a fini d'en raconter une, on éteint une bougie. Et ainsi de suite, 100 fois de suite. Et il faut bien faire coïncider la 100e et dernière histoire avec la 100e et dernière bougie et avec les premières heures de lever du jour. Pendant ce temps-là, on a bu un peu de saké, mais pas trop. On a bu du thé, mais pas trop. Et au moment où on éteint la dernière et centième bougie, eh bien à ce moment-là, la figure du fantôme sur la peinture sort de la toile. On passe de 2 à 3 dimensions. Et à ce moment-là, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut avec le fantôme. Je laisse votre imagination tout. Oui, je vois déjà ce à quoi vous pensez. Une partie de
manger du reblochon avec lui.
Moi, je pensais à une partie de go. Vous voyez.
Ah oui.
Oui, moi, j'aimerais bien jouer au go avec une yurei. Et puis bon, d'autres évidemment imaginent des jeux plus horizontaux. Ce qui est intéressant, c'est que le fantôme ne repart jamais seul. Ça, la tradition l'affirme, le fantôme ne repart jamais seul.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il se fait toujours accompagner pour retourner dans le monde des morts. Il tient un vivant par la main, qui disparaît à l'intérieur de la toile et qu'on ne revoit plus jamais jusqu'à ce qu'il soit figuré sur un nouveau yuraiga, une nouvelle peinture. Donc c'est un jeu dangereux, c'est un jeu de la mort. Et voilà, il faut bien choisir ceux avec qui on fait une veillée aux 100 bougies.
J'enverrai peut-être un chien avec une perruque à ma place alors. En 1998, le film d'horreur japonais Ring d'Hideo Nakata, dans lequel le démon d'une femme sort d'un puits. Et en fait, si j'ai choisi de le passer, c'est parce que c'est caractéristique des légendes des yokai. Il y a une légende qui est Okiku, la servante du puits, Philippe Charlier.
Oui, une légende assez dramatique. Alors, cette idée de fantôme dans les puits, on la retrouve beaucoup. La même légende existe aussi dans la cité interdite de Pékin, où une favorite a été précipitée dans un puits, depuis le puits est maudit. Et je précise juste que le film Ring est vraiment excellent sur le plan anthropologique, et je le montre même à mes étudiants en médecine dans le module d'anthropologie médicale, pour vous dire comme il est vraiment précis. Et donc, cette histoire est celle tout simplement d'un homme amoureux d'une... marié, mais amoureux d'une de ses servantes. Mais dans un jeu amoureux, il va entretenir cette flamme jusqu'à la pousser, certains, au suicide. Pour d'autres, il va la pousser à la mort en la jetant directement dans ce puits. Plusieurs versions existent et on ne sait pas laquelle est vraie. Il faudrait faire une sorte d'archéologie du texte pour le savoir. Mais on a toujours cette idée d'une femme qui est trahie par les hommes. Ça, c'est vraiment un pattern, si je peux dire, qu'on retrouve dans toutes ces histoires de fantômes. Et ce maître lui fait chercher périodiquement un plat qui manque, une assiette qui manque, et il la pousse véritablement à finir ses jours parce que le maître est éternellement insatisfait par cette femme.
Et vous dites dans le livre que le puits existe et qu'on peut le voir.
Et oui, c'est ça qui est intéressant au Japon, c'est que beaucoup de ces histoires de yurei sont liées à un endroit particulier qui entretient la mémoire de ces fantômes. Et donc il y a en l'occurrence 2 endroits différents où on montre le puits de la servante, le puits hanté. On ne sait pas lequel est bon, peut-être les deux, parce que j'ai peur que malheureusement cette histoire ait eu plusieurs occurrences dans l'histoire du Japon. Et on peut voir également des pavillons hantés, on peut voir également des baies hantées ou des champs de bataille qui sont hantés et dont les habitants actuels nous disent encore que parfois la nuit ils entendent le cliquetis des armes, des fantômes de samouraïs qui continuent encore à s'affronter yurei contre yurei.
Et on peut avoir, et là j'interroge l'auteur de Comment faire l'amour avec un fantôme, des rapports sexuels avec les esprits.
Oui, c'est fait partie des possibilités horizontales que j'évoquais juste avant lors des veillées aux 100 bougies. Et nul doute que certains samouraïs ont joué ce jeu de la mort poussé jusqu'à l'extrême.
Arletta Aftiashtoki Astolisto. Pardon si mon accent grec n'est pas bon. Philippe Charlier, c'est votre premier choix musical.
Oui. D'abord, j'ai été attiré, comme c'est pas possible, par sa voix grave et rauque, et puis les paroles qui m'ont vraiment, vraiment attiré.
Vous parlez grec ?
Je suis en train d'apprendre le grec moderne, donc là je comprends un mot sur 10 à peu près, mais ce sont des mots extrêmement forts, et c'est sur la violence, la violence entre les hommes et les femmes, quelques références à peine cachées des colonels dans les années 70, donc c'est une chanson qui me parle beaucoup, et je l'écoute assez souvent quand je travaille, et quand j'ai la chance de pouvoir marcher en Grèce avec mes enfants et ma femme.
Vous dites avoir toujours un livre dans la poche et un bon morceau de jazz ou de baroque pas très loin. Et justement, votre autre choix, Philippe Charlier, sublime partition de 1958, c'est Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis, composé pour le film homonyme de Louis Malle.
Thank you.
Miles Davis, ascenseur pour l'échafaud dans Grand Canal sur France Inter. Et on arrive au moment de la découverte. Philippe Charlier, je vous ai demandé de faire découvrir quelque chose aux auditeurs. Et alors, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez demandé si vous pouviez venir avec.
Oui. Ben, je me dis que tant qu'à faire, autant qu'on soit non pas deux dans ce studio, mais trois.
Mon Dieu, c'est
alors,
Voltaire.
Vous m'avez demandé si c'était un... Non, c'est pas Voltaire. Voltaire, il est partout. Hein, souvenez-vous, son esprit est partout.
Bien sûr.
Non, je suis venu avec un fantôme.
C'est pas
fait.
Vrai.
Et si.
Alors attendez, là vous prenez votre sac. Alors, non, vous prenez une boîte en bois sur laquelle figurent des caractères japonais.
Japonais, exactement, dont l'un signifie la montagne. Je l'ouvre et donc j'essaie de faire le plus de bruit pour que vos auditeurs entendent.
Là, vous déballez, il y a un ordinateur qui me gâche un peu la vue, mais vous déballez un petit sac en toile.
Avec un magnifique nœud que j'ouvre
mais
devant
attendez,
vous.
Vous allez laisser... Est-ce que les Ghostbusters sont là? J'ai peur.
Et je vous présente ce fantôme. En fait.
Alors c'est un masque, je le décris pour les auditeurs, c'est un masque de No.
C'est un masque No, exactement.
Qui date théâtre No.
Il date de la fin du 19e siècle.
C'est très très beau, je le vois de loin.
Il représente un défunt, donc je ne vais pas le mettre sur mon visage, car ça serait absolument sacrilège de le faire. Je le tiens avec mes mains. C'est un masque qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur pour 15 centimètres de large. La peau est extrêmement blanche. C'est Zona, c'est donc la jeune femme, la jeune fille. Elle a ses dents teintes en noir, car c'est une jeune mariée. Elle a la bouche un peu carmin. J'aime beaucoup sa lèvre inférieure qui va un tout petit peu plus en avant que la lèvre supérieure. Une sorte de petit prognatisme que je trouve assez saisissant. Elle a les cheveux noirs lissés sur le côté, quelques petits cheveux blancs qui émergent. Et puis surtout, regardez bien ses prunelles. Elle a les prunelles carrées. Les morts au Japon ont les prunelles carrées. C'est une des façons de reconnaître les défunts. Et surtout, le porteur de masque, l'acteur du théâtre No, avec ses minuscules prunelles, va avoir un mal fou à évoluer sur la scène. Et il va faire des tout petits pas dans ses vêtements qui sont amidonnés et très très larges. Et du coup, on ne va pas le voir marcher. On va avoir l'impression qu'il vole à la surface de la scène, comme un fantôme qui évolue en volant à la surface de la Terre.
Est-ce que, pour que les auditeurs... Est-ce qu'il y a une façon pour eux de voir ce masque? Est-ce qu'on peut faire une photo à la fin de l'émission
sûr,
le mettre sur un des réseaux?
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je ne voudrais pas être sacrilège, donc je vous demande. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites que c'est comme ça qu'on reconnaît les fantômes. Et dans votre ouvrage Fantôme Yokai, Philippe Charlier, on trouve les Rokurokubi, les têtes qui se détachent et volent de façon indépendante des corps. Et certains craignent tant cette légende au Japon, parmi les vivants, qu'ils observent les femmes qu'ils soupçonnent d'avoir ce pouvoir et regardent si elles ont une sorte de discrète ecchymose en forme d'anneau à la racine du cou.
Oui. Eh bien, vous savez quoi? Hier, je faisais une radiographie dans un hôpital à Rouen. On était en train de faire la radiographie du crâne de Raphaël, qui est conservé au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. Et une des personnes qui était en train de faire la radiographie, avait une petite cicatrice au niveau de la racine du cou. Et je pensais justement à cette légende en me disant « Oh là là !» Mais alors vous, si jamais vous allez au Japon, on va croire que vous êtes une yurei et que votre tête va très très loin de votre corps pendant la nuit et va éventuellement hanter les vivants. Donc oui, c'est quelque chose qu'on vérifie assez souvent avant de sortir avec une jeune femme. Les garçons regardent vraiment la racine du cou. C'est vraiment une croyance qui est très très profondément ancrée. Une vérification ne coûte rien.
J'aimerais, Philippe Charlier, que vous nous racontiez le sourire de la mort.
il y a des histoires de fantômes pour lesquelles le sourire d'un de ces êtres surnaturels est signifiant de la cause de son décès. Une femme, par exemple, avait été... profané, mutilé au moment de son décès par l'homme qui l'avait poussé à la mort, et il avait augmenté la taille de ses lèvres. Une sorte
comme
de...
dans L'homme qui rit d'Hugo.
Comme dans L'homme qui rit, exactement, de Victor Hugo. Et donc, parfois, certains fantômes qui sont magnifiques, séduisants, et bien pour attirer les humains, et bien à certains moments se révèlent aux humains au moment même de les tuer ou quelques secondes avant les tuer. Et cette femme au sourire absolument atroce devient immense et court jusqu'aux oreilles. C'est à ce moment-là qu'on a affaire non pas avec une femme magnifique, mais qu'on a affaire à un fantôme et que la mort va arriver dans quelques secondes. On sent déjà le vent du boulet qui vous arrive dessus.
Il y a quelque chose de terrifiant dans cette histoire que vous racontez, c'est qu'elle hante les ruelles sombres et elle guette les voyageurs isolés pour les questionner et elle leur demande « Me trouves-tu belle ?» Et en fait, on ne peut pas s'en sortir puisque... Non. Je vous laisse raconter.
Ben, si on lui dit « oui, tu es belle », eh bien, à ce moment-là, elle vous inflige la même anomalie, et dans ce cas-là, vous êtes mutilé, et ça peut même aller jusqu'à la mort. Et si elle, si vous lui dites « non, tu n'es pas belle », eh bien, elle se venge de vous de toute façon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de gagner un tout petit peu de temps, en attendant que d'autres voyageurs arrivent, et que vous répondiez « ni oui, ni non », ou « je réfléchis », ou « j'ai du mal à te voir », rajoute un petit peu de lumière, ou autre chose, ou « attends, je vais demander à quelqu'un d'autre ». Voilà, il faut jouer la montre dans ces cas-là. Mais c'est un jeu dangereux.
Qui sait, peut-être les fantômes sentent. Et les fantômes sentent, enfin, les fantômes peuvent avoir une odeur. Et les fantômes peuvent sentir.
C'est Ryoko Sekiguchi que nous avons reçue la semaine dernière dans Grand Canal. Et c'est une transition parfaite de parler de l'odeur des fantômes, Philippe Charlier, puisque vous faites la préface du prochain ouvrage de Sylvaine Delacour, Les secrets des parfums, mémoire d'une parfumeuse qui sortira chez Belin le 24 avril. Elle a été créatrice de parfums chez Guerlain pendant 30 ans. Et j'ai appris en préparant cette émission que les odeurs peuvent servir certaines enquêtes, puisque vous avez déjà soumis des bouts de cadavres à des parfumeurs.
Oui, à des nez de parfumeurs ou des créateurs de parfums, Sylvaine Delacourte notamment, ou encore Jean-Michel Durier, qui tous les deux ont cette acuité particulière au niveau de leur nez, de décrypter des odeurs extrêmement précises. Par exemple, quand on a travaillé sur la tête de Henri IV, je leur ai fait respirer la bouche de Henri IV, mais également ses oreilles, son nez et sa peau, pour qu'ils puissent déterminer quel produit d'embaumement avait pu être utilisé. Même chose pour les restes de Diane de Poitiers, même chose également pour des cœurs, le cœur de Anne-Madeleine Remusat ou le cœur de Pauline Jaricot également, dans le cadre de leur procès de béatification porté par les évêchés et pour le Vatican. Donc c'est toujours intéressant. Et ça, cette volonté-là m'est venue lorsque je faisais des fouilles archéologiques à Ithanos, en Crète, pour l'École française d'Athènes, sous la direction de Didier Vivier et d'Alain Schnapp. Et à l'ouverture d'un tombeau dans la nécropole, un tombeau archaïque aux alentours de 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y a une odeur extrêmement forte, un parfum intense qui est sorti de la tombe et qui a duré 3, 4, 5 secondes, pas plus. C'était le parfum dont on avait recouvert la défunte et qui s'était conservé pendant 2500 ans à peu près, jusqu'à notre ouverture du tombeau, et là, en quelques secondes, c'était fini. Mais on l'avait tous senti. Et de ce jour-là, je peux vous dire, j'étais encore étudiant en médecine, de ce jour-là, je me suis dit, la prochaine fois qu'on va travailler en archéologie et qu'on va ouvrir un contenant qui a conservé potentiellement une odeur, il y aura des nez de parfumeurs à ce moment-là. Et là, récemment, en travaillant sur le cœur de Voltaire, j'ai voulu faire venir non pas simplement des nez de parfumeurs, mais en plus des œnologues et des sommeliers, pour qu'on augmente un tout petit peu le spectre des odeurs. Et ben, je peux vous dire que ça a donné des résultats extrêmement intéressants, et en l'occurrence, c'est Dionysos Mavromatis et son collègue du restaurant Mavromatis, dans le 5e arrondissement à Paris, qui sont venus respirer le cœur de Voltaire, et les résultats ont été largement à la hauteur de nos attentes.
Et quand on respire le cœur de Voltaire, on met son nez comme un petit animal directement au-dessus du cœur.
Alors, pas au-dessus du cœur, mais au-dessus du trou, l'orifice, du reliquaire, entre guillemets, de cœur. Mais ça sent très très fort. Déjà, quand on rentre dans la pièce, on sent une odeur. Si j'étais venu avec évidemment, c'est impensable, mais s'il y avait eu le cœur, entre guillemets, de Voltaire dans ce studio, vous l'auriez déjà senti dans le couloir, je peux vous dire.
Philippe Charlier, pensez-vous que vous reviendrez sur Terre sous forme d'esprit après votre mort ?
Qui vous dit que je quitterai la Terre ?
Vous êtes bien optimiste.
Non, non, blague à part, je ne sais pas comment je reviendrai, mais si je reviens, je serai forcément sous une forme bienveillante.
Et que devront faire ceux que vous entrez pour vous faire reposer en paix ?
Me faire écouter du jazz, me mettre l'intégrale des Black & Mortimer à côté de mon urne funéraire, je ne sais pas. Essayer de penser qu'on fait le bien ensemble, tout simplement.
Je sais que vous lisez environ un livre par jour et je vous demande juste le titre de celui que vous lisez aujourd'hui.
Aujourd'hui, avant de partir ce matin, j'ai relu Stèle de Victor Segalen.
Ah oui. Merci beaucoup, Philippe Charlier. Je rappelle que votre ouvrage Fantôme Yokai est paru le 13 mars dernier aux éditions Azan. Vous avez participé à l'ouvrage collectif Les Grandes Remontadas de l'Histoire paru le 28 mars dernier chez Buchet-Chastel et préfacé le prochain ouvrage de Sylvaine de la Courte, Les Secrets des Parfums, Mémoire d'une Parfumeuse qui paraîtra le 24 avril aux éditions Belin. Enfin, la prochaine conférence ouverte au public de votre cycle Université aura lieu le 22 mai à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Louise Lemoine. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Romain Leborgne. Et dans un instant, c'est Very Good Trip par Mishka Assayas. Qu'allez-vous nous faire écouter, cher Mishka?
Eh bien, la réponse est simple, Eva. Pas mal de voix féminines entre punk, funk, rap et R&B. Voilà.
Ah bah d'accord. C'est aucun risque alors.
Oui. Comment ça, aucun risque? Ah bah si, il y a toujours des choses inattendues.
Il y aura forcément quelque chose qui plaira à n'importe quel auditeur avec une telle étendue de choix.
C'est mon souhait le plus cher.
Mais oui. Eh bien, je suis sûre qu'il sera exaucé.
Bon.
À tout de suite.
À tout de suite.